La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Bonjour, je suis Vincent Miéville, pasteur de l'Église évangélique libre de Toulouse, et je suis heureux de vous retrouver pour la prédication protestante de ce dimanche. Il y a des traditions qui sont incontournables. Et en cette période de l'année où les jours sont les plus courts, de multiples lumières s'allument ici ou là. À l'approche de Noël, nos centres-villes s'illuminent le soir. Les sapins, les décorations, les bougies ornent nos maisons. Bref, que l'on soit croyant ou non, on associe toujours la lumière à Noël et à ce temps de l'Avent. Alors évidemment, pour ceux qui sont croyants, cette lumière de l'Avent a un sens particulier. Elle est celle de Jésus-Christ, lumière de Dieu venue dans le monde, comme l'évoque le prologue de l'Évangile selon Jean. La lumière, voilà une métaphore courante dans la Bible pour parler de Dieu. On la voit associée à Dieu dans la toute première page et dans la toute dernière page de la Bible. La première parole que Dieu prononce le premier jour de la création, c'est « que la lumière soit ». Et la dernière vision du dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, eh bien elle se termine ainsi. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière. L'image de la lumière est donc riche et permet de dire de nombreuses choses sur Dieu. On aime, et on a bien raison, évoquer la métaphore de la lumière pour parler de la douceur de Dieu, de sa bonté. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de réconfortant, de rassurant dans cette métaphore, un peu comme la lumière d'un feu de cheminée en hiver, celle d'une lampe ou d'une lanterne qui nous éclaire sur le chemin, ou même celle d'une veilleuse qui rassure dans la chambre d'un petit enfant. Dieu, dans sa bonté et sa douceur, est bien ce type de lumière dans notre vie. Cette lumière douce et apaisante, on la trouve appliquée à Dieu dans plusieurs psaumes, par exemple. Au psaume 18, le verset 29, « Seigneur, tu es pour moi une lampe allumée. Mon Dieu, tu éclaires la nuit où je suis. » Le psaume 27, verset 1, « Le Seigneur est ma lumière, c'est lui qui me sauve. Je n'ai rien à craindre de personne. » Ou le psaume 36, verset 10, « C'est auprès de toi qu'est la source de la vie, c'est ta lumière qui éclaire notre vie. » Mais il y a aussi des lumières bien plus fortes et plus intenses. Celle d'un phare, par exemple, au bord de la mer, qui avertit les bateaux d'un danger et les empêche de s'échouer. Plus forte encore, celle du soleil, qu'on ne peut même pas regarder en face. Or, que se passe-t-il lorsque nous regardons directement une forte lumière ? Nous sommes éblouis. Et en fonction de la lumière dont il s'agit, ça peut même être dangereux pour nous. Ainsi, on a besoin de lunettes avec des verres opaques si l'on veut observer une éclipse de soleil, sinon on risque des dommages irréversibles aux yeux. Quoi de plus naturel, finalement, que d'évoquer aussi une lumière éclatante, intense, pour parler de Dieu ? L'apôtre Jean écrit avec force dans sa première épître « Dieu est lumière et il n'y a aucune obscurité en lui ». Dans cette affirmation, Dieu n'est pas seulement lumineux ou semblable à une lumière. Dieu est lumière. C'est une affirmation absolue. Il est une lumière absolue, pure, éblouissante. Ce n'est certes pas forcément cette lumière-là qu'on associe le plus souvent au temps de l'Avent, parce qu'elle est peut-être moins rassurante, qu'elle pourrait même d'une certaine façon nous inquiéter ou nous faire peur. Pourtant, il est légitime de dire que si Dieu peut être une lumière qui rassure, qui réchauffe, qui console, il est aussi une lumière qui éblouit. C'est sur cette lumière éblouissante de Dieu que j'aimerais m'arrêter aujourd'hui. On la trouve par exemple dans une vision étonnante reçue par le prophète Ésaïe et que nous pouvons lire au chapitre 6 de son livre. Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 8. C'était l'année où mourut le roi Ozias. Dans une vision, j'aperçus le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bas de son manteau remplissait le temple. Des êtres flamboyants se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 leur servaient à se cacher le visage, 2 à se voiler le corps et 2 à voler. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur de l'univers. La terre entière est remplie de sa gloire. » Leur voix faisait trembler les portes sur leurs pivots et le temple se remplit de fumée. Je dis alors, « Quel malheur pour moi! Je vais être réduit au silence car mes lèvres sont indignes de Dieu et j'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi indignes de lui. Or j'ai vu de mes yeux le roi, le Seigneur de l'univers. » Mais l'un des êtres flamboyants vola vers moi. Avec des pincettes, il tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel. Il en toucha ma bouche et me dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton indignité est supprimée, ton péché est effacé. » J'entendis alors le Seigneur me demander, « Qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole ?»« Me voici, » répondis-je, « Envoie-moi. » Dans la prédication protestante de ce dimanche sur Radio Présence, nous nous intéressons en ce temps de l'Avent à la lumière éblouissante de Dieu. « Dieu est lumière », écrivait l'apôtre Jean. Et le prophète Ésaïe aurait pu dire la même chose suite à sa vision transcrite au chapitre 6 de son livre. Car il y a bien dans cette vision que nous avons lue tout à l'heure une lumière éblouissante qui émane de Dieu. D'après les paroles des êtres flamboyants qui apparaissent, cette lumière, elle exprime la sainteté de Dieu. Saint, Saint, Saint est le Seigneur de l'univers. Il paraît assez logique finalement d'associer une lumière éblouissante à la sainteté de Dieu. Mais qu'est-ce que la sainteté finalement? Qu'affirme-t-on quand on dit que Dieu est saint et même qu'il est 3 fois saint? On entend souvent la sainteté comme une qualité morale. Être saint, ce serait être pur, sans tache, irréprochable. On l'entend que ce soit pour Dieu ou pour nous d'ailleurs. Mais est-ce vraiment cela, la sainteté? Dieu lui-même est au cœur de la vision reçue par le prophète. On le voit y apparaître comme un Dieu immense. On nous dit qu'il est sur un trône très élevé, et que le bas de son manteau remplit le temple. Mais lui, on ne le voit pas. Directement, on ne parvient pas à le voir. Ce sont des êtres mystérieux, les êtres flamboyants qui l'entourent, qui eux sont décrits, et eux nous parlent de Dieu. Ces êtres flamboyants de la vision, en général, on les appelle des séraphins. C'est la transcription en français du mot hébreu « séraphim » qui se construit sur une racine qui signifie « brûlant ». C'est le même mot qui est utilisé dans l'Ancien Testament pour les serpents venimeux qu'on trouve dans le livre des Nombres, lorsque Moïse a dû brandir un serpent d'airain pour soigner leurs morsures. Ce qui veut dire que nous ne devons pas imaginer ici, dans la vision du prophète, des petits angelots bien potelés, voltigeant gaiement autour de Dieu. En réalité, d'après leur nom, les êtres de cette vision pouvaient bien ressembler plutôt à des serpents ailés flamboyants. Et comment sont-ils décrits ? On nous dit qu'ils ont 6 ailes, mais 2 seulement de ces ailes leur servent à voler. Les autres leur servent à se cacher. Ils cachent leurs yeux. Pour ne pas voir Dieu, ils se voilent le corps, cachant leur nudité, comme l'ont fait, par exemple, Adam et Ève dans le jardin d'Éden. En fait, les séraphins, ces êtres flamboyants, nous parlent de Dieu et nous parlent de nous. Eux qui se trouvent dans l'immédiate proximité de Dieu, irradiant la sainteté de Dieu d'une certaine façon, eux, ils doivent se cacher devant lui. Alors, à plus forte raison, ce sera le cas pour nous. Et ces êtres flamboyants, ils crient. Ils crient de manière antiphonée, proclamant ceci l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur de l'univers, la terre entière est remplie de sa gloire. » En fait, ils utilisent ici la forme la plus forte du superlatif en hébreu. Dire du Seigneur qu'il est saint, 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 c'est dire qu'il n'y en a pas de plus saint que lui. Il est unique, il est incomparable. Et parce qu'il est unique et incomparable, nul ne peut se tenir en sa présence. Pas même les séraphins de la vision qui doivent se cacher devant lui. Et cette sainteté, elle n'est pas liée seulement au temple où se déroule la vision d'Ésaïe, elle s'étend à toute la terre. La terre est remplie de sa gloire. Sainteté et gloire sont liées intimement, elles décrivent l'éclat unique de Dieu, sa présence incontournable, sa singularité. Il n'y en a pas d'autre comme lui dans l'univers. Face à une telle vision, la réaction d'Ésaïe est immédiate, il est terrassé. Ce n'est certes qu'une vision, mais elle est tellement impressionnante qu'il pense qu'il va mourir. Parce que selon la formule qui traverse tout l'Ancien Testament, nul ne peut voir Dieu et rester en vie. Il était sans doute déjà prophète lorsqu'il a reçu cette vision. Et c'est pour cela qu'il évoque ses lèvres impures. Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu, mais il prend conscience ici, comme jamais auparavant, de la sainteté de Dieu. Il se sent alors indigne de son ministère. Comment, lui, avec toutes ses limites, ses imperfections, peut-il être le porte-parole du Dieu trois fois saint ? Dieu intervient alors auprès de lui. Il ne le laisse pas dans sa terreur. Un des êtres flamboyants touche ses lèvres avec une braise prise sur l'autel, et pourtant cette braise ne le brûle pas. La sainteté de Dieu est douce et se manifeste avec grâce et ne terrasse pas le prophète, mais le relève. Elle le purifie. Et puis la voix de Dieu se fait entendre, son appel est renouvelé. Qui enverrai-je ? Non, Ésaïe n'est pas indigne d'être le porte-parole de Dieu, parce que Dieu lui-même l'a choisi. La vision de la sainteté de Dieu, associée à l'expression de sa grâce, va fortifier le prophète, lui donner le courage d'accomplir sa tâche ingrate, puisque les versets suivants, le Seigneur l'avertit que le peuple ne l'écoutera pas. Dans la prédication protestante de ce dimanche sur Radio Présence, nous avons évoqué la vision du prophète Ésaïe, ébloui par la lumière éclatante de la sainteté de Dieu. Et parler de la sainteté de Dieu, c'est aussi parler de notre sainteté. Je pense ici en particulier à une formule qu'on trouve dans l'Ancien Testament où Dieu dit « Soyez saints car je suis saint ». Une formule qui est reprise dans le Nouveau Testament, dans le Sermon sur la montagne, par Jésus lui-même, et qui la transforme quelque peu en disant en Matthieu 5 « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Le lien entre la sainteté de Dieu et sa perfection est à noter. On associe habituellement la sainteté à la pureté en lui donnant un sens moral fort. Mais ce n'est pas le sens d'origine. Appliqué à Dieu, sa sainteté désigne plutôt sa singularité. Il est unique et incomparable, absolument parfait. Et appliqué à nous, la sainteté désigne notre consécration à Dieu. Que cela ait des conséquences éthiques dans notre vie, dans notre comportement, évidemment, c'est indéniable. Toutefois, la sainteté n'est pas d'abord une caractéristique morale, mais spirituelle. Elle exprime notre attachement à Dieu. Et c'est important de le noter pour notre vision, notre compréhension de Dieu. Le Dieu saint, lumière éblouissante, n'est pas un Dieu moralisateur et accusateur. Il est un Dieu unique et incomparable. On pourrait dire que la sainteté de Dieu, c'est tout ce qui nous éblouit en lui et qui émane de sa perfection. On peut donc bien sûr associer la sainteté de Dieu à la pureté, à la perfection, au bien absolu, mais on peut aussi fort bien associer l'amour de Dieu à sa sainteté. Car son amour est parfait, sa grâce et sa bonté sont sans limite, et cela aussi nous éblouit. Bien sûr, lorsqu'on prend conscience de la sainteté de Dieu, de sa singularité, de sa perfection, on se sent tout petit. Dieu est saint, unique, incomparable. Il n'est pas à notre échelle. Il est hors de notre portée, radicalement autre. Et comme Ésaïe, nous pouvons nous sentir indignes de parler de lui. Et c'est sans doute mieux que ce soit ainsi. C'est un peu l'antidote à l'orgueil spirituel, à l'arrogance de penser que nous savons, que nous connaissons, que tous les autres ignorent. La conscience de la sainteté de Dieu nous garde dans l'humilité. Et quant à notre sainteté, elle ne peut venir que de Dieu. Comme dans la vision d'Ésaïe, où l'être flamboyant touche les lèvres du prophète avec la braise tirée de l'autel. Être saint, ce n'est pas vivre dans l'ascétisme extrême, s'astreindre à une discipline de fer, renoncer à tout. On ne devient pas saint par nos propres efforts. Être saint, c'est rester attaché au Dieu saint, unique et incomparable, en toutes circonstances. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, les saints, ce sont les croyants, ceux qui appartiennent à Dieu. L'apôtre Paul adresse ses lettres aux saints qui sont à Éphèse, à Corinthe ou à Philippe. Nous devons renoncer à une compréhension moraliste de la sainteté, une compréhension qui met une pression parfois insurmontable sur les croyants, parce qu'évidemment, nous ne sommes jamais à la hauteur. Nous avons tous nos luttes, nos limites, nos fragilités. Nous avons tous de multiples raisons de nous considérer indignes devant Dieu, tous. Mais la sainteté de Dieu se manifeste aussi dans sa grâce, son amour inconditionnel, son appel pour tous. Notre sainteté, c'est notre attachement à Dieu et elle se construit dans notre relation à lui. C'est lui qui agit en nous. Nous devons aussi renoncer à une compréhension moraliste de la sainteté parce qu'elle nous coupe de nos contemporains. En réduisant la vie chrétienne à une affaire de morale, elle ne leur donne pas envie d'y goûter. Ils n'ont aucune envie de devenir des petits saints. Et je les comprends. Thank you. Dieu est lumière et il n'y a aucune obscurité en lui. Cette parole absolue de l'apôtre Jean dans sa première épître fait écho à la vision d'Ésaïe, le prophète, où les êtres flamboyants proclament « Dieu est saint ». Il n'y en a pas d'autre comme lui. Il est unique et incomparable. Il est une lumière qui nous éblouit, impossible à contempler, inaccessible. Et pourtant, effrayé par sa vision, convaincu qu'il allait mourir, Ésaïe a vu venir à lui un des êtres flamboyants auprès de Dieu, lui toucher les lèvres d'une braise prise sur l'autel qui pourtant ne l'a pas brûlé. La sainteté de Dieu aussi est douce. Elle se manifeste avec grâce pour relever et purifier. Dieu est lumière. Il n'y a aucune obscurité en lui. Il est une lumière éblouissante. Dieu est saint. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Et pourtant, en ce temps de l'Avent, nous nous souvenons que c'est ce Dieu saint qui a choisi de venir jusqu'à nous. Le Dieu invisible est devenu visible. Il s'est manifesté en Jésus-Christ. Le Dieu infini est devenu petit enfant. Le Dieu tout-puissant s'est fait serviteur. Le Dieu saint, incomparable, est devenu un être humain comme nous. En lui, la lumière éblouissante de Dieu se fait lumière fragile dans les tables de Bethléem et plus encore sur la croix quelques années plus tard, lorsque la lumière s'est éteinte dans sa mort, avant l'éclat de sa résurrection. Cette lumière de Dieu, elle veut élire domicile dans notre cœur, elle veut illuminer notre vie de sa présence en toutes circonstances. Et ainsi, elle veut nous faire participer à la sainteté de Dieu, non pas comme des croyants parfaits et purs, ou pire, comme des croyants qui se croient parfaits et purs, mais en tant qu'enfants de Dieu, des femmes et des hommes qui, humblement, lui appartiennent et s'exposent à sa lumière.